Chers sœurs et frères du monde francophone, salutations fraternelles à vous tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est un privilège et un plaisir de pouvoir me communiquer avec vous par ce moyen. Chers sœurs et frères, je suis sûr que la question que vous vous êtes posée, que nous nous posons tous, face à la crise que le monde entier vit en ce moment. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que devons-nous faire? Que devons-nous entendre par cette situation? On entend toutes sortes de spéculations, de conspirations, etc. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, chères sœurs et frères, que devons-nous, comment en profiter de cette crise pour apprendre et pour changer ce qu'on doit changer dans nos vies pour faire face aux événements prophétiques qui s'approchent, chers sœurs et frères. La grande question alors, je crois que vous êtes d'accord avec moi, une façon de répondre à la question « qu'est-ce que cela signifie ?» Je dirais que c'est un avertissement auquel nous devons faire attention. C'est un signe précurseur. Précurseur de quoi? Quand nous voyons que cette pandémie a atteint tous les pays du monde, nous voyons que c'est un signe précurseur de quelque chose qui s'approche. On ne pourra pas donner des dates, mais certainement, les choses que l'Éternel a prédites dans sa parole vont s'accomplir. Je vous prie de vous reporter, chers sœurs et frères, au livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et verset 10. Il y a une promesse ici. Nous allons étudier aujourd'hui comment pouvons-nous recevoir cette promesse dans nos vies et profiter de ces moments que l'on vit maintenant à l'échelle mondiale. Chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, au verset 10. Reportez-la, s'il vous plaît, et portez-vous là, chers sœurs et frères. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, c'est-à-dire l'épreuve, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Maintenant, nous voyons donc quelque chose qui a atteint tous les pays du monde. Et donc, c'est une épreuve, mais c'est un signe précurseur de ce qui est annoncé ici. Nous allons voir, je crois que vous comprenez que ce n'est pas encore l'accomplissement de la galopade des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Mais c'est certainement un signe précurseur de cette galopade que nous savons qui va venir, peut-être d'ici peu. Donc, il faut en profiter de cette occasion. Alors, comment devons-nous faire face à la situation que nous vivons maintenant? Nous devons en profiter, mes amis, pour nous approcher de Dieu. Voilà notre seul refuge. Maintenant, la situation n'est pas tellement dure, parce que nous voyons que, bien sûr, il y a le confinement dans nos maisons, mais la nourriture n'a pas manqué. C'est pas un temps de famine à l'échelle mondiale que l'on vit maintenant, ou partiellement, comme nous allons voir, qui va s'accomplir d'ici peu. Donc, disons que nous devons être reconnaissants pour ces fêtes, mais être préparés pour la crise qui viendra après, qui sera beaucoup, qui sera pire, qui est beaucoup plus que celle que l'on vit maintenant. Je vous prie de vous reporter, chers sœurs et frères, au deuxième livre des chroniques, nous allons voir une écriture que, j'en suis sûr que vous avez déjà médité sur ces paroles que Dieu a préservées pour nous ici, chers sœurs et frères. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7 et verset 11. Nous allons lire là, deuxième livre des Chroniques, chapitre 7 et verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière. » La prière qu'il a faite, vous connaissez bien, c'est au premier livre des Rois, chapitre 8, quand il s'est agenouillé devant Dieu et devant toute l'assemblée d'Israël et qu'il a levé ses mains au ciel pour demander la bénédiction des dieux pour ces temples qu'il venait de conclure, dont la construction venait de finir. « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Vous voyez, frères et sœurs, cela peut très bien s'appliquer à nous aujourd'hui. Nous sommes la maison des dieux où l'on offre des sacrifices spirituels. C'est une figure physique, c'était un temple physique, c'était des sacrifices physiques que l'on faisait. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que ça prend une dimension spirituelle. Je vous prie de garder cette écriture-là, parce que nous allons y revenir et de vous reporter, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, pour voir comment nous pouvons appliquer ces écritures à nous aujourd'hui et faire ce que Dieu veut que nous fassions pour être en paix, puis pour être sous sa protection, chers sœurs et frères. Et reportez-vous, s'il vous plaît, à la première épître de Timothée, chapitre 3 et verset 15. Première épître de Timothée, chapitre 3, verset 15. Lisons, il dit, l'apôtre Paul écrit à Timothée, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Et voilà, nous venons de lire ce que l'Éternel a dit à Salomon. Il dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. » Et voilà, nous sommes aujourd'hui l'accomplissement de cette figure physique qui atteint une dimension spirituelle pour nous aujourd'hui. Et nous continuons ici donc dans 1 Épître à Timothée, chapitre 3, verset 15, nous lisons, « Chers sœurs et frères, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison des dieux. » Voilà, la maison des dieux qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Oh là là, mes amis, quel privilège! Nous sommes l'accomplissement. Le Christ a dit, « Je suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour accomplir. » Et voilà comment s'accomplissent ces paroles dans la Nouvelle Alliance avec l'Esprit des dieux qui est en nous, qui nous permet de comprendre une dimension merveilleuse de ces Écritures. Et puis, pour confirmer ça, en parlant des sacrifices, je vous prie de vous reporter au chapitre 2 et verset 4 de la première épître de l'apôtre Pierre. Première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2 et verset 4. « Approchez-vous de lui. » Voilà ce que nous devons utiliser notre temps maintenant. Maintenant qu'on est confiné, il faut bien utiliser le temps, pas pour se passer, gaspiller le temps avec le divertissement de ce monde, les abominations de ce monde qui s'ennuie, qui s'amuse. La plupart, chers sœurs et frères, de films et de programmes de télé que l'on voit aujourd'hui, c'est de la pornographie, c'est de la violence, c'est de la sorcellerie, ce sont toutes des choses que Dieu abomine. Nous ne devons pas laisser que cela pénètre dans nos foyers, dans nos maisons. Nous devons nous écarter du monde et nous allons voir d'autres écritures qui nous signalent ça. Mais revenons maintenant, s'il vous plaît, au chapitre 2, verset 4 de la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Voilà, Dieu parlait à Salomon de cette maison physique, mais ce n'est que la figure d'une maison qu'il allait remplir de gloire, comme dit le prophète Agée. Et donc, il dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes. » Si vous voyez, ici par exemple, la version Osterwald, il dit « pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Voilà l'accomplissement de cette phrase que nous venons de lire ici maintenant, en revenant au deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. » Et nous voici, nous sommes le peuple choisi de Dieu sans le mériter. C'est le Père qui a décidé de nous appeler pour construire cette maison spirituelle pour sa demeure. Et ce bâtiment dont la pierre angulaire, c'est le Christ, pour sa gloire, pour la gloire de Dieu et la gloire du Christ. Il nous a appelés à faire partie de cette maison spirituelle et d'offrir des sacrifices qui sont nos prières le matin et le soir. Et même à midi, qu'on faisait des hommes qui étaient aimés par Dieu. David était aimé de Dieu. Daniel était aimé de Dieu. Ils utilisaient leur temps pour être toujours en communication avec l'Éternel, mes amis. C'est ce que nous devons faire maintenant, que nous avons plus de temps. Quand je fermerai le ciel, voilà verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et les voilà en Afrique maintenant, chers sœurs et frères, qui consomment des pays et qui détruisent des récoltes, c'est la menace de la famine qui s'abat sur pas mal de pays en Afrique maintenant. Et ça peut arriver n'importe où, c'est arrivé souvent en Australie aussi. Et que, je répète, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, voilà, celle que nous voyons ici, cette pandémie que nous témoignons en ce moment historique, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité peut-être où une pandémie atteint chaque nation dans le monde. Donc il dit, j'enverrai la peste parmi mon peuple, maintenant, ça pourrait être parmi nous aussi. Et heureusement, jusqu'à présent, personne n'est pas encore décédé du peuple des dieux, du peuple choisi. Il y a des parents, des membres de l'Église qui ont été atteints de cette peste, de cette maladie. Mais Dieu a protégé son peuple, miraculeusement. Donc, il est en train de nous montrer, je ne prétends pas d'expliquer toutes les possibilités qu'on peut, n'est-ce pas, conclure de cette crise que nous vivons, mais c'est certainement de tirer des leçons qui peuvent nous être utiles. Donc, il dit, « Quand je fermerai le ciel, verset 13, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, c'est la famine, pas de pluie et sauterelles, mes amis, c'est un mal sur l'autre qui s'abattra d'ici peu. » C'est écrit dans Joël, il y aura des sauterelles. Puis ce sont des choses qui s'approchent, donc il faut nous préparer. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, verset 14, mon peuple, et voilà que l'apôtre Pierre dit que nous sommes maintenant le peuple de Dieu, chers sœurs et frères, encore pour voir que ces écritures ont un accomplissement devant nos yeux à présent. Comme il l'a dit, au chapitre 2, verset, on a lu ces versets de l'épître de l'apôtre Pierre. Il dit, et au verset 9, premier épître de Pierre, je suis en train de voir ces écritures avec vous pour vous montrer, chers sœurs et frères, qu'il y a un accomplissement très significatif pour nous. Chapitre 2, verset 9. De la première épître de l'apôtre Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc voyons que chacune de ces paroles que nous voyons est une figure d'un accomplissement que nous vivons, duquel nous sommes partis maintenant. Revenons au deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, voilà, nous sommes ce peuple, nous ne le méritons pas. Dieu nous a fait ce peuple. Parmi ceux qui sont des descendants d'Abraham, comme il y en a, bien sûr, et puis les autres que Dieu a ajoutés, comme les branches de l'olivier sauvage qui vient greffer dans l'arbre, dans l'olivier d'Israël, et nous sommes tous comptés comme des descendants, chers sœurs et frères. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de l'Église de Dieu d'après les Écritures? Église de Dieu, Église du Dieu vivant. Voilà, ça s'applique parfaitement à nous autres aujourd'hui. Si mon peuple qui est invoqué, sur qui est invoqué mon nom, l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant, le nom de Dieu est invoqué sur nous, chers sœurs et frères. Nous devons accepter ça avec humilité, mais c'est la vérité. Et puis, si mon nom s'humilie, voilà, il y a quatre choses que Dieu demande et dont nous devons profiter maintenant en cette occasion où Dieu nous donne un signe précurseur des choses qui viendront, que nous aurons le temps de voir un peu plus tard, de ce qui s'approche, chers frères. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, s'humilie, numéro un, deux, prie, trois, et cherche ma face, trois, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Voilà quatre choses, chers frères, que nous devons faire. Nous allons analyser un petit peu chacune de ces conditions. La toute première, c'est si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. C'est dirigé à nous. Il s'humilie et prie. Deux, cherche ma face. Trois, et se détourne de ses mauvaises voies. J'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà, chers sœurs et frères. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Et ce lieu maintenant, c'est l'Église des dieux, l'Église du Dieu vivant, partout où les membres sont même éparpillés dans le monde entier. Et les voilà, nous sommes dans l'esprit un corps que Dieu est en train de perfectionner pour être l'épouse du Christ. Voilà quel privilège. Donc, il dit, si mon peuple s'humilie, l'humilité est la toute première condition, mes chers sœurs et frères. L'humilité n'est que la réalité de ce que nous sommes. Voilà. Donc, pour nous approcher de Dieu, lisons par exemple à l'épître de Jacques, s'il vous plaît. Vous le reportez à l'épître de Jacques, chers sœurs et frères. Épître de Jacques, chapitre 4, s'il vous plaît. Épître de Jacques, chapitre 4, voilà l'exhortation que Dieu nous donne par l'intermédiaire de son serviteur. Il dit ici, chapitre 4 de l'épître de Jacques, verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux, donc pour nous approcher de Dieu, il dit la première chose, il l'a communiqué à Salomon et à nous maintenant, c'est de nous humilier, n'est-ce pas, d'être bien conscient du fait que nous avons tous péché, mes amis. Il n'y a pas d'homme qui puisse se justifier à la présence de Dieu. Donc la toute première chose, il dit, il accorde une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, voilà, soumettez vous donc à Dieu, résistez au diable. Les tentations ne manquent pas, surtout quand on est confiné comme ça, de vouloir avoir le divertissement du monde, qui est une abomination à Dieu, de se maintenir, de se garder éloigné de ça, chers soeurs et frères, de fuir, de le détester. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut haïr le mal, chers soeurs et frères, pour vraiment nous approcher de Dieu, de tout notre cœur. Donc il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Celui qui veut venir après moi, dit le Christ, qu'il s'est renié lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il faut crucifier tout ce qui est le péché qui règne dans le monde. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira de vous. Donc, si on résiste, si on ne donne pas lieu au diable, il va fuir. Approchez-vous des dieux, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà, l'humilité est essentielle. L'apôtre Pierre aussi, au chapitre 5 de sa première épître, il répète ce principe qui vient du livre des Proverbes, chapitre 5, verset 5 de la première épître de Pierre. Chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, le repentir, c'est de reconnaître nos fautes, mais parfois l'orgueil ne nous permet pas de les voir. Il faut donc prier à Dieu qu'il nous montre, parce que l'apôtre Jean, dans son épître, il nous signale, ce sont des écritures que vous sans doute connaissez très bien, reportons-nous s'il vous plaît à la première épître des Jean, chers sœurs et frères. Première épître des Jean, chapitre 1, verset 6. Voilà un principe à mettre en pratique maintenant qu'on est confiné. Il paraît que le mauvais traitement entre de mari aux femmes s'est augmenté énormément à cause du confinement où le peuple ont été soumis. Donc la nature humaine vient ressortir avec sa face laide, chers sœurs et frères. Donc il faut nous nier nous-mêmes et nous agenouiller devant Dieu, demander des pardons, de changer notre nature agressive. Et que Dieu, le Christ, c'est celui qui va se manifester par notre intermédiaire. Si nous disons, chapitre 1, verset 6 de la première épître des Jean, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et voilà, qu'est-ce que marcher dans les ténèbres? Qu'est-ce que c'est que marcher dans la ténèbre? Nous allons le voir, il est expliqué dans le chapitre suivant, par l'apôtre Jean lui-même. Il dit, verset 9, au chapitre 2, verset 9, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière », chapitre 2, verset 9. Donc, il explique qu'est-ce que marcher dans les ténèbres, et ça doit s'appliquer très spécialement dans cette période que nous vivons maintenant. Chapitre 2, verset 9, « Celui qui dit qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est essentiel pour être en communiqué avec Dieu d'être en paix, en bonne communication, en harmonie les uns avec les autres. Autrement, il y a un obstacle qui se dresse entre nous et Dieu si on n'est pas en paix avec nos frères, si nous n'avons pas l'humilité de demander pardon quand nous avons offensé et nous n'avons pas l'humilité de pardonner quand on a été offensé. Tous les deux demandent de l'humilité Et Dieu, il regarde ça. Autrement, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Et puis, l'apôtre Jean, il nous illustre aussi dans le premier chapitre. Il dit, au verset 8, chapitre 1, verset 8 du premier chapitre de l'épître de Jean, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et puis il y a des péchés que nous ignorons, que nous faisons par erreur et nous sommes toujours coupables de ces péchés-là. Chers et frères, on reçoit des conséquences moindres quand on est en train de briser la loi de Dieu sans s'en rendre compte, mais les conséquences viendront de toute manière, parce que le péché par ignorance n'arrête pas d'être un péché. Nous allons les voir dans la loi de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous humilier devant Dieu d'être conscients de nos erreurs. Puis il dit... Verset 10, chapitre 1, verset 10 de la première épître des Jean. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, voilà. Donc, je vous montrais dans les Écritures, chers sœurs et frères, c'est l'orgueil qui nous empêche de voir nos péchés. C'est l'orgueil. Par exemple, lisons, ici, je vais utiliser la version Osterwald, parce qu'il y a une traduction qui est plus exacte, plus précise, du psaume 19. Je vous invite à vous reporter, s'il vous plaît, au psaume 19, pour que nous voyons un principe essentiel pour nous examiner maintenant, maintenant que la semaine de pain sans levain vient de finir, il faut continuer dans cette attitude, toujours, chers sœurs et frères. Au chapitre 19, je vous lis dans la version Osterwald, parce que je vois que la version Louis II n'est pas correcte dans cette traduction. Au chapitre 19, il dit du livre des psaumes, livre des psaumes, chapitre 19. Il dit au verset 13, chapitre 19, verset 13, « Qui connaît ses fautes commises par erreur ?» Il y a des choses que nous commettons, nous ne savons pas. « Pardonne-moi mes fautes cachées. » Il demande à Dieu de pardonner ses péchés dont il n'est pas conscient de certains péchés. « Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil. » La version que vous avez, la plupart d'entre vous, et c'est la version Louis II, il dit « des hommes orgueilleux ». Les hommes orgueilleux ne sont pas la cause de nos péchés. Nous sommes responsables, nous autres, pour nos péchés, pas les hommes orgueilleux. Donc c'est une traduction qui n'est pas correcte. Ici, elle est correcte, il dit « préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil ». Ce n'est pas des hommes orgueilleux, des péchés d'orgueil. C'est le premier péché qui a été commis dans l'histoire de l'univers par Satan, par Lucifer. C'est un péché d'orgueil, il s'est mis à la place des dieux. Il a transgressé le premier des commandements des dieux. Et la loi des dieux est éternelle, elle existait déjà à l'époque. Le psaume 111 nous dit que la loi des dieux est éternelle et reflète son caractère, et Dieu est éternel. Donc lui, il s'est mis à la place des dieux, il a transgressé le premier commandement. A essayé de prendre le trône des dieux. Je répète, version Osterwald, qui connaît ses fautes commises? Nous devons demander à Dieu de nous révéler et de nous donner l'humilité pour les reconnaître. C'est pourquoi l'orgueil, c'est pourquoi dans le livre des Proverbes, il dit, il ne faut pas corriger un orgueilleux parce qu'il va te haïr. Mais il faut corriger un sage, il va t'aimer. Parce que l'orgueilleux ne voit pas son péché ou ses péchés. Il croit qu'il est tout innocent, qu'il est parfait. Et quand on lui dit ou on mentionne ses péchés, il nous haït parce qu'il croit que nous, on est en train d'inventer des histoires. Donc, la sagesse nous dit, il ne faut pas les corriger, n'est-ce pas? Mais ici, nous autres devons demander à Dieu de nous corriger et de nous montrer les choses que nous ignorons pour pouvoir nous approcher de lui et les confesser en toute humilité devant lui. Qui connaît ses fautes commises par erreur, pardonne-moi mes fautes cachées. Verset 14, encore version Osterwald. Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre et innocent des grands péchés. Voilà, chers sœurs et frères. Donc, regardons pour un moment dans le livre du Lévitique et savoir que nous devons demander à Dieu de nous montrer les choses que nous faisons par erreur. Reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 5 du livre de Lévitique, au verset 17. Chapitre 5 du Lévitique, au verset 17. Et nous voyons cette loi que l'Éternel, que le Christ n'est pas venu abolir. Chapitre 5, verset 17 du livre du Lévitique. C'est ce que nous devons faire maintenant encore, je répète, quand nous vivons cette crise mondiale, pour nous préparer, pour être proches des dieux. Il faut demander de nous épargner, mais d'abord de nous montrer nos propres fautes, que nous les confessions avec humilité. Si quelqu'un nous signale lesquelles sont ses fautes, il faut l'aimer. Si on aime la sagesse, si on aime Dieu, si on craint Dieu, si on veut vraiment avoir le caractère du Christ. Au chapitre 5, verset 17, lisons ici. Lévitique 5, 17, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, voilà, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable, il sera chargé de sa faute, une fois qu'il se rend compte, bien sûr. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Nouvelle Alliance? C'est une dimension spirituelle maintenant. Il présentera au sacrificateur, qui est le suprême sacrificateur, c'est le Christ. Il faut venir devant lui à ses pieds pour confesser sa faute, sa culpabilité. Et puis un bélier sans défaut, le Christ était le bélier, il était l'agneau et il était aussi le sacrificateur. Donc nous voyons maintenant comment ces paroles s'accomplissent aujourd'hui, sont de la lumière pour nous. Donc, il dit, il se présentera au sacrificateur, nous nous présentons au Christ, comme nous venons de le lire dans l'épître des Jean, pour confesser nos péchés, en sacrifice de culpabilité, un sacrifice de culpabilité, un bélier, et puis le bélier c'est l'agneau, c'est le Christ lui-même, sans défaut, c'est le Christ lui-même, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation. Le Christ, donc, nous avons un avocat, nous venons de le lire dans la première épître des Jean, il fera pour lui l'expiation, il va être notre intercesseur devant la présence du Père, il fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir. Et nous sommes toujours coupables. Et puis il dit, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité, verset 19. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. Voilà, même quand on ne sait pas, on est coupable. Le Christ, il explique dans, je crois que c'est Luc 14, quand on ne sait pas qu'on fait des fautes, ou qu'on pêche, qu'on transgresse la loi de Dieu, il y a toujours des conséquences, il y en a moins. Mais on subit les conséquences, chers sœurs et frères. Donc voilà un panorama pour nous examiner, pour nous humilier devant Dieu, pour confesser nos fautes. Il y a beaucoup d'écritures là qu'on peut lire, de que nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas nous justifier par nous-mêmes devant Dieu, et que nous péchons encore. Si on dit qu'on ne le fait pas, on est des menteurs. Donc voilà la première condition. Et je vous donne quelques écritures là, mes chers sœurs et frères, pour les mettre en pratique. Donc Dieu, il dit, si mon peuple s'humilie, parce que nous allons voir, c'est que le futur, c'est qui s'approche sur nous, chers frères et frères, on profite de cette occasion pour s'humilier devant Dieu. On continue dans le chapitre 7 des Chroniques, quand Dieu dit, si mon peuple, verset 14, deuxième épître, deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, nous l'avons déjà vu, l'Église du Dieu vivant, on invoque son nom sur cette Église qui est son peuple, s'humilie. Voilà, pour s'humilier, je vous donne quelques écritures qui nous servent. Dieu assiste aux orgueilleux, donc il donne sa grâce aux humbles. De l'orgueilleux, il ne reconnaît pas ses fautes. L'humble, il les reconnaît et il demande Dieu de lui montrer ses fautes cachées, comme nous l'avons vu dans les psaumes 19. Voilà ce que nous devons faire, donc, maintenant, chers frères. Et puis il dit, s'il prie et cherche ma face, donc, nous voyons, nous avons un exemple de prière merveilleux, chers frères, un exemple de prière dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Et reportez-vous là, s'il vous plaît, mes chers frères, où il combine tout ce que Dieu est en train de demander, s'humilier, prier, chercher sa face. Chapitre 9 du livre de Daniel, pour voir la deuxième condition que Dieu nous donne pour nous approcher de lui et pour avoir son pardon et pour être épais pour la crise qui s'approche. La première année de Darius, fils d'Assuérus, Daniel 9, verset 1, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé par Jérémie le prophète. Et puis nous allons voir dans Jérémie le prophète que Dieu dit que, et puisque c'est une prophétie que Daniel accomplit, pour trouver Dieu, mes amis, ce n'est pas une recherche superficielle. Il faut le chercher de tout notre cœur et de toute notre âme. Donc, on le rencontre. Et nous allons voir ça maintenant, exemplifié ici par Daniel. Donc, je vous prie de garder cette page-là du chapitre 9. Et nous allons voir quelques écritures où Dieu met comme condition pour vraiment s'approcher de lui. Et les conditions, nous allons voir au chapitre 4 du livre du Deutéronome, chers frères, au chapitre 4 du livre du Deutéronome, verset 28, quand il dit de la déportation de l'exil d'Israël, il dit au verset 29, « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. » Ce que nous devons faire maintenant, si nous voulons vraiment prendre cette occasion de tirer tout l'avantage possible. Il dit, nous devons donc appliquer ce principe. C'est de là aussi, chapitre 4, verset 19, que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà. Et puis au chapitre 32, du Deutéronome, Dieu répète ses conditions. Nous devons nous examiner, parce que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. Est-ce que c'est un commandement? Est-ce que nous sommes en train de l'appliquer? Nous sommes en train de l'obéir? Voilà, il faut nous examiner, mes amis, dans ce monde plein de distractions, mes amis, des distractions qui sont pécheresses, n'est-ce pas, qui nous invitent au péché. Dans un monde qui nous inonde partout, il veut nous envahir de tous côtés pour nous éloigner de Dieu, mes amis. Donc, au chapitre 32, je crois que c'est du Deutéronome, je vous donne l'écriture pour que vous le gardiez, c'est très important. Autrement, on ne obéit pas le premier commandement, et si on n'obéit pas le premier commandement, on ne trouve pas Dieu, on n'a vraiment pas une communication avec lui comme il veut que nous l'ayons. Chapitre 32, chapitre 32 de Daniel, c'est ça? Je ne trouve pas l'écriture là maintenant, mes amis. Chapitre 32 ou 31 de Daniel, il dit, de toute façon, il dit, vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Et le voilà encore, si vous reportez au chapitre 27 de Jérémie, qui était la condition que Dieu a mise pour que le peuple puisse retourner. Et puis il y a un homme qui a accompli les conditions, c'est Daniel. C'est à cause de sa prière, donc, que Dieu a permis le retour du peuple qui avait été exilié de Jérusalem, de la région de Judée par Nebuchadnezzar, pour qu'il puisse retourner au bout des 70 ans du roi, de la domination de Babylone sur tous ses territoires là-bas. Il dit, au chapitre 29, 2, de Jérémie, reportez-vous là-bas, s'il vous plaît. Ce sont des écritures très importantes. Il dit, au verset 11, chapitre 29 et verset 11. Chapitre 29 et verset 11, voilà les conditions que Dieu a. Verset 11, il dit, Jérémie, chapitre 29 et verset 11, chers sœurs et frères. Reportez-vous là, s'il vous plaît. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je dis l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et je me laisserai trouver par vous. Voilà, nous avons cette occasion maintenant. Il faut en profiter, chers sœurs et frères. Voilà, donc, et puis, au chapitre 25 de Jérémie, Dieu répète la même condition. Chapitre 25 et verset 12 de Jérémie. Chapitre 25, verset 12, nous lisons, « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai les rois de Babylone et cette nation de l'Éternel à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. » Et puis, il dit, oh, je crois que c'est là où il dit que nous le trouverons si nous le cherchons de tout notre cœur. De toute façon, ça m'échappe cette écriture, mais ça ne fait rien. Elle est là. C'est à vous de la trouver, mes amis. Et puis, nous continuons alors avec le livre de Daniel et nous voyons cet exemple merveilleux d'un homme qui s'est humilié devant Dieu, qui a prié, qui a cherché sa face, et qui s'est écarté de ses péchés, parce qu'il a confessé lui-même qu'il avait été un pécheur aussi. Donc, lisons maintenant cet exemple merveilleux de Daniel, chapitre 9, et verset 3. Verset 3. Chapitre 9, verset 3. « Je tournai ma face vers l'Éternel Dieu, afin de recourir à la prière, voilà, et aux supplications, en jeûnant. » Voilà, une façon de s'humilier, c'est jeûner. C'est très important, nous devrions profiter de ce temps que nous avons maintenant en confinement pour jeûner, chers sœurs et frères, d'une façon régulière et fréquente, pour nous garder proches de Dieu. C'est très important, chers sœurs et frères, ça serait tout un sermon que je n'ai pas le temps de vous donner aujourd'hui, mais très important, en supplication, en jeûnant, et en prenant le sac et la cendre, donc en s'humiliant. Ça, c'est le symbole de l'humilité. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice, et à nous la confusion des faces en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nous, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Donc il continue sa confession, et puis voyons comment l'Éternel a répondu, et je vous prie de relire cette prière en entier, chers sœurs et frères, dans vos maisons, là, chez vous, c'est très important. Donc, verset 17. Et maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire. Voilà, il y avait une condition de chercher la face de Dieu. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que cela veut dire et comment nous pouvons l'appliquer, chers soeurs et frères. Seigneur, je répète, verset 17 du chapitre 9 de Daniel. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tardez pas par amour de toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Ça s'applique donc à nous aussi. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel n'était pas un sacrificateur, mais en esprit, il avait l'esprit de Dieu. Il faisait des sacrifices spirituels devant Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Donc nous devons faire la même chose, de prier le matin, de prier le soir, d'accomplir cette loi merveilleuse que le Christ n'est pas venu abolir, mais lui donner une dimension spirituelle. Et nous voyons déjà que Daniel, lui, il pratiquait ça, mes chers sœurs et frères. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour t'annoncer, car tu es bien aimé. Tu es un bien aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, il lui a révélé, pas seulement la fin des 70 ans, de ruines de Jérusalem, mais aussi une prophétie des 70 semaines, qui est la prophétie pour l'avènement du Messie, le premier avènement et son second avènement. Je ne veux pas me lancer sur cela maintenant, mais je vous présente ça comme un exemple de prière merveilleuse, sincère, du cœur, du profond de l'être, et que Dieu a écouté cette prière de Daniel, parce qu'il a prié de tout son cœur, de toute son âme. Il a eu communication avec Dieu, et nous devons faire la même chose, le chercher de tout notre cœur et de toute notre âme pour qu'il se laisse trouver par nous, chers sœurs et frères. Il demande l'accomplissement du premier et du plus grand de tous les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Donc il faut obéir, mais il faut avoir cette passion pour Dieu, pour le chercher. Donc il dit aussi que s'il cherche sa face, qu'est-ce que ça veut dire, chers sœurs et frères? Nous allons voir quelques exemples rapidement pour voir comment nous pouvons nous approcher de Dieu, de chercher la face de Dieu. Pourquoi il parle de ça? L'apôtre Paul, il parle du fait que nous aussi, nous pouvons voir la face de Dieu. Je vous prie de vous reporter à la première épître des Corinthiens, chapitre 13, première épître des Corinthiens, chapitre 13, et puis verset 12. Première épître des Corinthiens, chapitre 13, et verset 12, chers sœurs et frères. Et nous voyons qu'il y a un profond principe ici que nous devons utiliser maintenant pour nous préparer pour l'avenir. Chapitre 13, verset 12 de la première épître aux Corinthiens, nous lisons. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Voilà, il dit, nous voyons dans l'esprit, mes amis. Nous avons l'esprit des dieux. Nous pouvons nous présenter devant sa présence par le chemin que le Christ nous a ouvert. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, il parle de voir Dieu comme dans un miroir, mais de voir qu'on est dans sa présence. Quand on prie de tout son cœur et de toute son âme, on se communique, on se connecte avec Dieu. On peut le savoir dans l'esprit qu'on est connecté avec lui quand notre prière n'est pas superficielle, mais elle vient du fond de l'être. C'est la meilleure façon, donc, de nous préparer pour l'avenir, chers sœurs et frères, de prier comme ça. Donc, nous allons voir dans le livre des Psaumes comment le thème de la face des dieux, il revient tout au long du livre. Nous allons voir, par exemple, ici, au chapitre 27 du livre des Psaumes. Je vous prie de vous reporter là, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, pour entendre qu'est-ce que Dieu veut dire par ce principe de chercher sa face. Chapitre 27, il y a pas mal de références à ce principe profond et merveilleux, mais je vous prie de faire attention maintenant, chapitre 27, et quand David, il fait référence à ce principe, chapitre 27 du livre des Psaumes, verset 8. « Mon cœur, dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. » Pourquoi chercher la face de Dieu? Donc, je vous dis, c'est quand on voit, mais comme un miroir, on sent qu'on est connecté avec lui et nos prières sont exaucées parce qu'on le cherche de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous voyons ce principe de la face de Dieu aussi. Nous allons voir quelques exemples pour que vous voyez que donc c'est quelque chose de très important aux yeux de Dieu qu'il a inspiré ces versets. Chapitre 44, voulez-vous reporter là-bas, du livre des Psaumes aussi. Chapitre 44 et verset 24 du livre des Psaumes. Nous voyons ce principe revenir. Chapitre 44, verset 24 du livre des Psaumes, il dit « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi, ne nous repousse pas, jamais. Pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ?» Donc, quand on perd contact avec Dieu, parfois, on sent qu'il cache sa face, et puis il y a une supplication d'avoir ses sens, de le voir même comme dans un miroir, pas complètement, obscurement, si vous voulez, mais qu'on comprend qu'on est en communication avec Dieu. Nous devons pratiquer ça maintenant. Voyons par exemple le psaume 69, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au verset 17, psaume 69, verset 17. Nous voyons le principe se répéter une fois après l'autre. Nous allons voir exactement pourquoi. Chapitre 69 des psaumes, verset 17, 69. « Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense, dont tes grandes compassions tournent vers toi les regards. » Verset 18, « Et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. » Donc, d'avoir cette perception spirituelle qu'on est connecté avec Dieu, avec sa face. Et puis, voyons encore le psaume 80. Vous allez voir que le thème se répète, et puis je ne le cite pas tous, mais je vous donne des exemples pour voir que c'est un principe énorme de profondeur qui est important pour Dieu et que ses serviteurs qui l'ont connu intimement l'ont pratiqué. Chapitre 80 du livre des psaumes, au verset 3. Il dit, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller, verset 4, fais briller ta face et nous serons sauvés. Chapitre 4 et chapitre 80, verset 4 du livre des Psaumes. Maintenant, regardez le verset 7, quoique le verset parfois change dans la version Louis II. Il dit, Char, tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis s'éraillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Et puis, finalement, au verset 19, à la fin du psaume, il répète encore ce principe. Chapitre 80, verset 20 du livre des psaumes, 80, verset 20, Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Pourquoi c'est important? Nous allons le voir maintenant dans la deuxième épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul revient sur ces sujets, chers sœurs et frères. Chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens. Et lisons, s'il vous plaît, je répète, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il dit, « Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image des gloires, en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, ou comme c'est écrit dans d'autres versions, comme par l'Esprit du Seigneur. » Donc, je répète ce verset, il est d'une importance fondamentale. Verset 18 du chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens. « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image des gloires, en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Je mal traduis ici, « comme par l'Esprit du Seigneur ». Par le Seigneur, l'Esprit, enfin, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous transforme, mais il faut avoir cette communication avec Dieu. Quand il n'y a pas des prières de tout son cœur et de toute son âme, il n'y a pas de croissance spirituelle. Il y a des gens qui ont passé des années dans l'Église, mais ils ne prient pas. Ils n'ont pas vraiment une communication profonde avec Dieu. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas cette transformation dont l'apôtre Paul dit. Il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Je me souviens, quand j'habitais en Californie, dans les montagnes, il y avait beaucoup d'orangers et d'autres arbres de citrus. Et puis, je voyais les oranges, comment elles se transformaient peu à peu, quand elles recevaient la lumière du soleil de la Californie. Chercherais frère, d'abord, elles étaient toutes vertes, des oranges vertes, et dit, n'est-ce pas, il n'y avait pas de parfum qui venait d'elle, mais peu à peu, elle s'est transformée, elle changeait de couleur peu à peu, presque la même couleur du soleil qui rayonnait sur ses fruits, et puis elle s'est transformée, et commençait, la lumière s'est transformée en sucre au-dedans de ses fruits, c'est comme l'Esprit des dieux nous transforme et nous donne la douceur de l'Esprit, de l'humilité, cet attribut du don des dieux que le Christ avait. Il a dit, apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Je voyais ces oranges se transformer et la lumière qui rayonnait du soleil comme celle qui rayonne en nous de la face des dieux, elle transformait ses fruits comme elle peut nous transformer en nous. Dans des gens qui deviennent une bénédiction pour les autres, parce qu'il y a une transformation du cœur, d'où les sources d'eau coulent comme le Sprit à grand flot, et c'est une bénédiction pour les autres. Donc, voyez, ces oranges s'est transformé, il y avait du goût, il y avait le jus savoureux qui était accumulé là quand la lumière du soleil par la photosynthèse s'est transformée. Et transformait le fruit. Il devenait d'une couleur très belle. Il était rempli de jus, délicieux et savoureux. C'était une transformation, parce que c'était sous la lumière, physique du soleil et nous devons être sous la lumière spirituelle de celui qui a créé le soleil, dont la face rayonne comme le soleil dans toute sa force, comme l'apôtre Jean l'a vu et comme ses disciples Pierre, Jean et Jacques l'ont vu sur la montagne où le Christ s'est transfiguré. Et il nous transforme parce qu'on développe un rapport intime avec lui en accomplissant le plus grand de tous les commandements, en cherchant sa face de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est ça ce que nous devons être en train de faire maintenant. Donc nous, on peut arriver à la présence de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître, dans l'épître aux Hébreux. Je vous prie de vous reporter là-bas, épître aux Hébreux. Et chapitre 10 de l'épître aux Hébreux, l'apôtre Paul donc nous exhorte à profiter de ce privilège énorme que nous avons de pouvoir nous approcher de Dieu, de chercher sa face pour qu'il nous écoute. Voilà, chapitre 10 et verset 19 du livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, nous autres, la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Voilà, chers amis, donc nous avons accès à la présence de Dieu, mais il faut le chercher, comme il nous le dit, de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est pourquoi, je vous dis encore le dernier principe, c'est pas le dernier, mais qui peut nous servir dans les psaumes 119, chers sœurs et frères. J'avais préparé beaucoup de matériel, je n'aurai pas tout le temps de vous le donner aujourd'hui, mais j'espère avoir une autre occasion pour pouvoir vous communiquer encore des aspects prophétiques fondamentaux que nous devons avoir dans l'esprit, chers sœurs et frères. Je parlais du psaume 119, et voyant comment le roi David, qui est peut-être l'auteur, et quoique il n'y a pas le nom de l'auteur dans le psaume, mais nous, on croit bien que c'est le roi David qui l'a écrit, chapitre, puis l'était d'après, le cœur des dieux, chapitre 119 et verset 38. Ce que nous devons faire donc en profitant de cette occasion que nous vivons maintenant, chers sœurs et frères. Chapitre 38, psaume 119, voyons. C'est chapitre 38, voyons ce qu'il dit. Il change le verset ici dans cette version. 58, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà, c'est correct. 119, chapitre 58. Je t'implore de tout mon cœur, et pitié de moi selon ta présence, ta promesse. C'est dommage, c'est pas bien traduit. Il y a d'autres versions, j'en ai vérifié plusieurs, il dit, j'implore ta présence, ça veut dire ta face, de tout mon cœur. Que cela reste dans nos esprits, chers sœurs et frères, profitons donc de cette occasion que Dieu nous donne, de nous approcher de lui et de nous préparer pour ce que l'avenir, ce que nous savons qui va venir, sûrement sur toute la terre. Et j'aurai l'occasion de vous présenter un panorama prophétique dans la prochaine occasion qui sera extrêmement important parce que la vision nous permet ou nous stimule à garder la loi de Dieu. Que l'Éternel soit avec vous et que la paix de l'Éternel soit toujours avec vous. À bientôt, chers sœurs et frères.